Radio Okapi.
Okapi,
un partenariat entre la Mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle.
Les blessures traumatiques non guéries peuvent contribuer au développement de la violence chez certains membres d'une communauté ethnique. Au Nord Kivu, par exemple, les membres de la communauté congolaise Tutsi disent avoir pris les armes pour assurer leur propre sécurité. Selon eux, ils sont depuis plusieurs années la cible des exactions, exclusions, menaces et tueries de la part des autres communautés de cette province à cause tout simplement de leur faciès. Et cela, affirme-t-il, en complicité avec certains dirigeants du pays. Le reportage que nous propose aujourd'hui de Gisèle Cage nous en dit un peu plus long. Suivi.
Les deux, nous sommes en trois. Mes parents ont été assassinés dans la collectivité des 14, le centre des autres qui sont tous. Dernier, c'était le 24 novembre. Mon fils, Moussafi, qui se rendait dans ma ferme, il a été lâchement assassiné, attaqué. Et le fait d'être tous, on nous considère toujours comme des étrangers. C'est ça qui nous révolte. Cette exclusion, pourquoi ça? Les gens pensent que nous sommes nés pour seulement prendre les armes. Pourquoi ils prennent les armes? C'est pour retrouver leurs droits.
Il s'agissait là d'Alexandre Mayogi, un député honoraire lors de la période de transition et membre de la communauté Tutsi congolais de la province du Nord Kivu. Ancien président de la société civile du Nord Kivu, Alexandre Mayogi déclare avoir aussi été combattu par ses collègues qui les soupçonnaient d'être un étranger. Pour sa part, un autre notable Tutsi, Emmanuel Kamandi, ajoute que les Tutsi congolais ont connu bien d'autres blessures par le passé, massacres, tueries et expulsions du pays. Emmanuel Kamandi.
En 1991, il y a eu des maisons de Tutsi à Jomba qui ont été brûlées. Les Hutus ont incendié les maisons de Tutsi. Pourquoi on a brûlé les maisons puisqu'on disait qu'ils étaient complices dans la guerre qui se visait au Rwanda à ce moment-là? En 1993, c'était la guerre déjà interethnique qui a éclaté en Hutu. C'était d'abord un problème qui opposait les Nyanga aux Randophones et mais particulièrement aux Hutus. Malheureusement, cette guerre s'est répandue. Il y a eu des bordements, il y a eu un massacre de Tutsi dans le monastère de Mokoto. Il y a eu un massacre de Hutus à l'église de Singa, et tout ça, c'était orchestré par des Ngilima qui sont devenus des Maïmaï. En 96 déjà, les restes de Tutsi qui étaient encore au sud de Rubero, dans les Moussissi et dans les Rutsu vont fuir maintenant vers le Rwanda. Pourquoi? Puisque il y avait un message du gouvernement qui passait à travers l'armée, à travers l'administration, comme quoi tous les Tutsi étaient des Rwandais, ils devraient nécessairement aller au Rwanda. Malheureusement, il y a une organisation d'exclusion de Tutsi, et vers mars-avril 96, les derniers Tutsi ont franchi la barrière laïroise à l'époque.
Selon Denis Taré, un autre notable de la communauté Tutsi congolais du Nord Kivu, c'est depuis 1960 que des Tutsis sont la cible de certaines autres communautés de la province du Nord Kivu. Selon lui, toujours jusqu'à ces jours, les Tutsis congolais ne peuvent pas circuler librement dans d'autres provinces, tout simplement à cause de leur morphologie.
Je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'aucun Tutsi ne se sent en sécurité aujourd'hui au Sud Kivu. La ville de Bukavu a été déclarée ville propre simplement parce qu'elle est débarrassée de toute présence Tutsi. Aujourd'hui, est-ce qu'un Tutsi peut s'établir librement, circuler en paix et prospérer à Beni, à Lubero, à Butembo? Certainement pas. Même si aujourd'hui il y a un calme apparent, il suffirait d'une clameur publique pour dire « Ah, voilà un Tutsi ». On l'a vu les années passées, il n'y a pas de réseau que ça ne se répète pas, surtout que moi je ne perçois pas, ni à travers la société civile, ni au niveau du gouvernement, je ne vois aucun effort de ce côté-là et qui conduise à penser qu'on a pris le problème à bras-le-corps et on est en train d'éduquer les gens pour qu'ils vivent ensemble en paix.
Ce même notable affirme qu'à cause de cette situation, plusieurs Tutsis congolais recourent aujourd'hui aux moyens des armes afin de revendiquer leurs droits, aussi afin d'assurer leur propre sécurité. Le notable Emmanuel Kamandi estime qu'il est de la responsabilité du gouvernement congolais de réconcilier les ethnies du Nord Kivu.
Si le gouvernement peut régler nos problèmes, qu'est-ce que nous allons chercher dans les armes? Depuis 10-15 ans, nous sommes au front. Nous sommes aussi fatigués. Ces enfants qui sont en brousse, ils ont des femmes. Notre décision n'est pas de faire la guerre au gouvernement. Mais par contre, nous pensons que le gouvernement, encore l'État, il peut s'occuper de nos problèmes. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de recourir plutôt aux voies pacifiques de règlement 1 à 1, c'est-à-dire rapatrier les FDLR. Par des voies pacifiques ou par des voies militaires, si nécessité il y a. Il ne faudra pas que ce soit encore la cause de faire entrer les Rwandais chez nous, puisque quand ils vont entrer,
laissez-nous encore les Tutsis alors subir plus de problèmes. Les Tutsis, les Hutus, on va dire que nous sommes alliés. Deuxième chose, rapatrier nos compatriotes qui sont en Ouganda et au Rwanda. Et troisième point, c'est de réconcilier maintenant nos communautés aux autres, puisque notre communauté a été toujours débordée par les extrémistes.
Kati Jean-Marie, un activiste de la paix et de la réconciliation des communautés au Nord Kivu, ne veut pas parler de la marginalisation uniquement des Tutsis congolais par d'autres ethnies de cette province.
Moi, je m'appellerai Costa Magérie. Dans tout ce que nous connaissons dans ce pays, partout, il y a un phénomène binôme. Que ce soit à l'intérieur d'une communauté, il y a toujours ces binômes-là. Je prends ma communauté, je suis Nandé. Il y a des communautés chez les Bandades, certes, se disent du nord, d'autres du sud. C'est binôme qui existe, même à l'intérieur de la même tribu. A fortiori avec les groupes comme les Hutus, les Tutsis, c'est un autre binôme. Les binômes sont un peu inévitables. On connaît Lulua et Baluba, on connaît Kwango Filou, tout ça.
Enfin, les notables de la communauté Tutsi-Congolais concluent que les gouvernants ont leur part des responsabilités dans tout le problème qui affecte leur communauté. Gisèle Cage Goma pour Okapi Action.
Okapi Action, Nicole Ngaka et J.R. Louyemi.
Professeur Okumba, vous êtes un spécialiste dans cette chronique, Benevolentia. Alors aujourd'hui, nous parlons des conséquences des blessures non guéries qui peuvent contribuer à développer une certaine violence au sein d'un groupe qui se dit marginalisé. Vous avez suivi le reportage proposé par Gisèle Cage. La première question, professeur, votre réaction?
Bon, j'ai retenu plusieurs choses à partir de la déclaration du premier intervenant. Il a dit que mes parents ont été tués, mon fils a été tué, des maisons sont brûlées. Ça, c'est extrêmement important. Cela signifie qu'il y a des blessures, que les blessures demeurent. Il a ajouté également que le calme n'est qu'apparent, c'est-à-dire que tout peut flamber à tout moment. Et il a même ajouté qu'il suffit d'une clameur, c'est-à-dire qu'il suffit d'un incident, d'une étincelle pour que la violence se reprenne. Cela signifie, à mon avis, qu'il faut continuer l'action des sensibilisations, il faut tout faire pour que la violence cesse. Et le genre d'émission que Radio Okapi diffuse, ce genre d'émission a son bien fondé et toute son importance dans ce contexte-là où on sent que la violence demeure.
Les blessures sociales et psychologiques des Congolais aussi, parce que c'est l'exemple que nous avons pris, seraient donc à la base de leur révolte il y a quelques années.
Bien entendu, les révoltes, à la base des révoltes, il y a toujours des blessures. Vous savez qu'il existe généralement deux types de blessures quand il y a de la violence. Vous avez d'un côté des blessures physiques et de l'autre côté des blessures psychologiques. Peut-être que nous allons revenir sur ces deux types de blessures, mais ce sont ces blessures qui, la plupart du temps, sont à l'origine des révoltes fondamentales et de toutes sortes de violences dans la société.
Ils se disent cibles des exactions, exclusions, menaces et même tueries à cause de leur faciès. On peut qualifier ça de blessure sociale ou psychologique?
Ben, c'est à la fois une blessure sociale et psychologique. À partir du moment où on est exclu, on a le sentiment d'être diminué, d'être amoindri dans la société, et ce sentiment d'être diminué, d'être amoindri, d'être dévalué, c'est une blessure psychologique qui s'installe chez la personne et qui l'amène nécessairement à réagir, à se battre pour être reconnu dans la société. Donc c'est à la fois une blessure psychologique, c'est-à-dire une blessure qui a pris place dans la structure mentale de la personne, mais c'est également une blessure sociale dans ses relations avec les autres membres de la communauté.
Tous ceux qui se disent marginalisés, peut-être que font aussi les mêmes sentiments. Tout à l'heure, on a cité dans le reportage le cas, il y a un auditeur, il y a un témoin qui l'a dit, le cas des Lulua Luba, le cas des Kwango Kulu, les conflits qu'il y a eu dans le passé, c'était certainement dû en fonction des blessures psychologiques et sociales.
Absolument, absolument. Vous savez qu'à l'origine de ce genre de blessures, comme on l'a dit il y a deux semaines, il y a des préjugés. Des préjugés, parce que quand on parle des préjugés, il y a toujours des éléments. Il y a l'élément intellectuel, c'est-à-dire qu'il y a un jugement qui n'est pas fondé, mais il y a également une attitude défavorable à l'égard de la personne. Et c'est ce préjugé favorable qui est à l'origine des blessures que les personnes ressentent. parce que les préjugés donnent lieu à la dévaluation. Et la dévaluation donne nécessairement lieu à une blessure psychologique.
Mmh. Mais comment est-ce qu'un groupe qui se dit marginalisé, qui se dit traumatisé, peut devenir violent, jusqu'à devenir criminel et prendre des armes? Comment est-ce que ces blessures peuvent amener ainsi les groupes à se révolter, et surtout les groupes traumatisés?
Les victimes en général subissent deux types de blessures. Vous avez d'un côté des blessures physiques et de l'autre côté des blessures psychologiques. Les blessures physiques, elles sont visibles. Elles peuvent guérir, elles peuvent disparaître ou tout simplement laisser des cicatrices. Mais vous avez des blessures psychologiques, je donne quelques exemples, c'est le sentiment d'avoir été amoindri, diminué, détruit par rapport à l'image que l'on se fait de soi-même et par rapport à l'image que la société se fait de soi-même. On peut citer également comme blessure psychologique l'auto-reproche. On se reproche d'avoir été incapable de se défendre, d'avoir été incapable de défendre les siens. Et vous avez là des blessures psychologiques qui sont visibles, mais ce sont des blessures qui sont gravées dans la structure mentale de la personne, c'est-à-dire dans sa conscience et dans son inconscient. Et si ces blessures ne sont pas traitées, elles dégénèrent, elles donnent lieu à ce qu'on peut appeler une psychose de la violence, une psychose d'oppression. Et la psychose d'oppression elle-même, elle suscite un sentiment très fort de vulnérabilité, de peur, de haine, de vengeance. Et le sentiment de vengeance pousse nécessairement à la violence. Voilà de quelle manière souvent les victimes deviennent des criminels.
Mmh. Alors, pour ceux qui se sentent marginalisés du fait qu'ils ont des blessures internes, sociales et psychologiques, devraient normalement se révolter. On prend d'autres exemples. Prenons par exemple le cas des fonctionnaires qui se disent marginalisés. On n'est pas payé, on a plusieurs arriérés de salaire. Eux aussi devraient se révolter.
Non, attention, il y a de paliers dans les blessures. Hein. Mmh. Il y a des blessures qui sont très très graves et qui s'installent dans la structure mentale de la personne. Mais vous avez des injustices qui ne donnent pas nécessairement lieu à des très graves blessures psychologiques. Le fait d'être mal payé ne donne pas nécessairement lieu au sentiment de vengeance, ainsi de suite. Ça pousse plutôt à la revendication, ça. Mais je prends le cas d'une personne dont on a coupé un bras, une jambe ou une femme qui a été violée. Là, vous avez nécessairement une blessure physique accompagnée d'une blessure psychologique profonde et qui souvent pousse à la haine, à la violence.
Mmh. Alors, pour qu'un groupe traumatisé se livre à la violence à travers le groupe, faut-il qu'il y ait nécessairement un élément déclencheur, vous avez dit un bras coupé, comme une menace de notre groupe?
En général, il y a un élément déclencheur pour qu'il y ait une violence de groupe ou pour qu'un groupe est traumatisé puisse se livrer à la violence. Mais attention, cet élément déclencheur peut ne pas être une véritable menace. Hein. Il peut s'agir d'une action qui est mal interprétée, une action interprétée comme suspecte ou comme un signe d'oppression. Donc, il convient de signaler qu'un groupe est traumatisé vit dans la suspicion. Donc, c'est-à-dire avec le sentiment de crainte qui est favorisé par le danger, un danger présumé venant des bourreaux.
Cela a été relevé dans le reportage qu'on a suivi. Les Congolais tout de suite se disaient marginalisés du fait de leur faciès, raison pour laquelle j'étais révolté. C'était un peu ça l'élément déclencheur.
Oui, oui. L'élément déclencheur peut être une action réelle, mais l'élément déclencheur peut être simplement une action mal interprétée. Je prends le cas, vous avez le groupe de bourreaux, et puis vous avez les victimes. Il suffit que les victimes observent, par exemple, que les anciens bourreaux se rencontrent, ils discutent entre eux. Cette action peut être suspectée et être considérée comme un danger de violence et déclencher la violence des victimes, du groupe est traumatisé. Donc, dans certains cas, il y a des véritables menaces, mais dans d'autres cas, il y a des menaces présupposées et qui amènent les groupes traumatisés à déclencher une violence, à mon avis, rétroactive.
Alors, comment en fait, faut-il procéder? Que faut-il faire pour qu'un groupe ou une société traumatisée ne puisse pas arriver au stade de la violence, professeur Okomba?
Moi, je pense qu'il y a deux actions qui méritent d'être préconisées. La première consiste à assister, à encadrer les victimes de la violence de groupe. Et cet encadrement peut prendre plusieurs formes. D'abord, il convient de les amener à parler, à parler des événements dont elles ont été victimes, parce que je considère que la parole libère de l'angoisse, de l'anxiété. Quand on ne parle pas, on reste dans l'angoisse, on démarre avec ces problèmes, on ne les résout pas et alors ces problèmes restent à l'intérieur et ça débouche sur la psychose dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut les amener à s'exprimer, à parler, à dire clairement, à relater même les histoires, les événements, comment ils se sont passés. Toujours dans le cadre de l'encadrement, il faut cultiver chez les victimes le sentiment de l'estime de soi, parce qu'en général, il s'agit des personnes qui ont tendance à croire qu'ils ne valaient plus rien, ils ont été dévalorisés, ainsi de suite. Donc il faut cultiver cette estime de soi. Dans le cadre de l'encadrement, il faut également amener les membres de la communauté à accorder aux victimes toute la considération que toute personne humaine est méritée dans la société. Donc ça, c'est dans le cadre de l'encadrement. La deuxième action réside dans la communication interpersonnelle. Je pense que la communication interpersonnelle constitue un outil très très important de lutte contre la violence de groupe. Cela signifie qu'il faut amener les anciens bourreaux et leurs victimes à être en contact. Il faut qu'ils se parlent, qu'ils communiquent. Il faut susciter des échanges entre ces deux groupes.
Des rencontres.
Il faut qu'ils se rencontrent. Il faut favoriser des intermariages, des échanges de toutes sortes, des échanges culturels. Et il faut amener les enfants des victimes, les enfants des bourreaux à fréquenter les mêmes écoles pour essayer de lutter contre la violence déjà chez les jeunes.
Parce que, en fait, la crainte que nous avons, c'est que les mêmes causes puissent à nouveau se répéter. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets, hein, professeur Okumba.
Absolument, mais c'est pour ça que moi, j'estime qu'il faut favoriser la communication interpersonnelle. Il faut utiliser abondamment cet instrument. Vous savez que la communication interpersonnelle est beaucoup plus efficace que la radio et la télévision, surtout pour lutter contre la violence. Parce que quand on utilise la communication interpersonnelle, il y a moyen de discuter, d'échanger des arguments, de voir si l'autre est convaincu et si la personne n'est pas convaincue.
Pour recommander, avant de prendre jusqu'à la conclusion, vous avez parlé de deux propositions, donc assister à encadrer les victimes des groupes et puis
favoriser la communication interpersonnelle. Oui.
Tout cela nécessite une médiation. Alors, qui va faire cette médiation? Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui comprend l'historique des deux parties.
Il faudrait peut-être qu'il y ait un autre dialogue intercongolais.
Voilà. Oui, mais la médiation, elle doit être faite en premier lieu par le pouvoir public. Parce que l'ordre public doit être maintenu par le pouvoir public. Pour moi, la responsabilité incombe au premier chef au pouvoir public. Mais à côté des pouvoirs publics, vous avez toutes les personnes de bonne volonté, vous avez les associations de la société civile, vous avez les églises, vous avez les intellectuels. Donc, il y a d'un côté les pouvoirs publics.
Parce qu'on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, le Barraza ne marche pas tellement bien, parce que parfois, le médiateur a aussi des partis pris.
Mais justement, la médiation ne peut pas être faite par une personne qui a un parti pris. Il faut choisir des personnes qui ont une certaine crédibilité.
Des gens qui sont neutres.
Des gens qui sont neutres, mais également des personnes que l'on peut considérer comme des référents sociaux. Des référents sociaux, ce sont des personnes qui sont respectées dans la société.
Des sages
qui sont respectés par toutes les communautés. Et ces sages existent partout. Mmh. Et donc, si on recourt à ces référents sociaux, ils peuvent mettre ensemble les anciens bourreaux et les victimes pour tenter de favoriser cette communication interpersonnelle qui, à mon avis, constitue l'outil fondamental pour lutter contre la violence de groupe.
Voilà, on va donc suivre la conclusion que nous proposons maintenant, Marcel Concou.
Avant de terminer la chronique bénévolence d'aujourd'hui, disons que notre histoire a démontré que nous soyons victimes, témoins ou auteurs de violences haines. Nous connaissons tous des effets psychologiques ou mentaux liés à ces violences qui ne sont pas normales. Si nous ne faisons rien pour guérir de nos blessures internes, et si nous n'aidons pas les autres à guérir de leurs blessures, alors nous avons tendance à nous sentir vulnérables et à considérer les autres comme des ennemis, comme un étranger, comme un agresseur, et cela parfois même s'il n'y a pas d'agresseur ni de danger quelconque. En effet, nous pouvons avoir peur de sortir, nous pouvons avoir des crises d'angoisse, avoir peur du noir et paniquer lorsque nous entendons un coup de feu ou voyons un homme en armes. cette angoisse et ce mal-être peuvent nous amener à adopter une attitude défensive, agressive. Nous considérons le monde comme dangereux, surtout le groupe qui nous a fait souffrir dans le passé, et nous développons des mécanismes d'autodéfense violents pour nous protéger de ces soi-disant menaces. Parfois même, nous nous vengeons. Nous devenons ainsi auteurs des violences. La guérison de nos blessures, que nous soyons victimes, témoins ou bourreaux, peut réduire notre sentiment de vulnérabilité et peut nous permettre de nous sentir plus forts et solidaires dans notre volonté de mieux vivre ensemble et de travailler et reconstruire ensemble. Ce travail de guérison du traumatisme doit se faire ensemble et non chacun de son côté, car ainsi nous pouvons nous exprimer face aux autres, nous pouvons dialoguer sur nos expériences passées et futures, et ce, sans se blesser. Ainsi, nous nous connectons de nouveau avec les autres groupes et comprenons que le monde n'est plus dangereux comme il l'était pendant les conflits, ce qui favorise les contacts entre groupes. Nous devons aussi tendre la main à ceux qui sont traumatisés et qui ont vécu des abus. Il est primordial que nous réapprenions ensemble ce qu'est le bonheur, que sachant que ça existe et que nous pouvons l'atteindre, que nous retrouvions nos envies, buts, que retrouvions l'espoir.
Merci beaucoup Marcel Kankou, professeur au combat. Est-ce que vous avez un mot à ajouter après cette conclusion?
Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'estime que l'action qui est en train d'être menée actuellement doit être poursuivie, surtout au regard du reportage qui a été diffusé au début de cette émission.
Allez, on vous retrouvera prochainement pour une autre chronique. Ben et Valentia, ce sera jeudi prochain. Merci, hein, professeur, et à la prochaine.
Merci beaucoup. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Nous avons tout à tout abordé plusieurs sujets au cours de cette émission. On a été à Kisangani, à, disons, autour de 9h, avec les écoles en construction à Bafassende. En cette mention, nous avons fait le point et nous avons reçu le professeur Thérèse Ndalé, secrétaire générale de l'NGICG. Mujimaï, c'était la recrudescence des cas de violences sexuelles au Sankourou. Et puis, Kinshasa, nous avons abordé la question sur la démolition des constructions anarchiques, les cas de Tembe Ntembe et Ingan. Et puis, toujours Kinshasa, nous avons abordé cette mesure d'interdiction de circuler, hein, donc pour les véhicules avec volant à droite. Et nous avons terminé avec la chronique La Benevolentia. Voilà, Nicole, tout pour aujourd'hui. Nous prenons rendez-vous pour demain.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à aller de l'avant dans cette émission, tous ceux qui ont réagi à travers leur SMS, leurs emails. Le prochain rendez-vous, c'est demain, à la même heure, c'est-à-dire de 9h à 12h. Nous rappelons qu'à la mise en onde, il y avait Jean-Noël Mokondo, à la réalisation Jeudi Kachama. Cette émission a été coordonnée par Nathalie Monteba.